Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Concrètement. Donc concrètement, comme d'habitude, c'est un expert qui vient nous parler d'un sujet technique et un petit peu en profondeur et qui va nous expliquer comment ça marche et de quoi il s'agit. Et si possible, nous faire une démo. Donc aujourd'hui, je suis avec Philippe Béraud. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal.
De la direction technique et sécurité de Microsoft France. Et tu viens nous parler aujourd'hui de Azure Active Directory B2B Collaboration. Donc un
C'est un
titre un
long
petit peu à rallonge,
nom.
mais on va voir un petit
Ou
peu
comment
de.
faire plus simplement du B2B, permettre de faire réaliser simplement des scénarios business to business, donc de collaboration avec d'autres organisations au travers de ce que nos clients et partenaires ont déjà potentiellement avec Azure AD ou pas.
Voilà. Donc.
Donc si on fait un petit zoom sur ce qu'est la collaboration inter-entreprise, pour dire les choses peut-être très simplement en termes de cahier des charges, je pense qu'aujourd'hui, ce que tout un chacun ou tout un chacune a à faire au quotidien, on a à interagir avec des sociétés multiples, non seulement au sein de la sienne, mais avec d'autres sociétés. Et vu l'utilisateur, on s'attend finalement à ce que tout marche très simplement. Si j'ai à collaborer avec quelqu'un ou accéder à des ressources, je m'attends à ce que je puisse le faire très simplement. Et finalement, les services informatiques sont là pour le permettre. Maintenant, si je me mets dans la peau ou dans les chaussures de l'organisation partenaire qui souhaite collaborer avec mon organisation, ce qu'il souhaite faire, si tant est que cette collaboration doit se mettre en place, il faut que ça soit le plus transparent possible, si on est toujours dans le cahier des charges ou les vœux pieux, de ne pas avoir de machine à déployer, ne pas avoir de compte particulier à gérer, etc., etc. Et si je suis à nouveau au niveau de mon organisation, l'organisation, côté administrateur, va souhaiter, côté sécurité d'une façon générale, va souhaiter que tout ça se fasse sans mettre en péril finalement le capital et le patrimoine de l'entreprise, que ça soit sous contrôle de façon diverse, j'allais dire. Donc si on regarde peut-être Pascal, si on essaie de faire un zoom finalement par rapport à un sujet qui, dans le vocabulaire Microsoft, mais dans la réalité aussi, remonte déjà à quelques années. Enfin, la collaboration, ça ne date pas d'aujourd'hui. Enfin, les besoins de collaboration, en tout cas. Et si on regarde finalement les modèles partenaires pour une organisation pour pouvoir finalement exposer ses ressources à d'autres organisations partenaires, aujourd'hui, il me semble que l'on a finalement deux grandes familles de modèles. Et comme on va le voir rapidement, finalement, ces deux grandes familles, elles ont leurs avantages dans la capacité potentiellement à permettre le scénario. Et puis, elles ont également un certain nombre d'inconvénients. Et c'est vis-à-vis de tout ça que l'on essaye d'apporter une valeur ajoutée et une plus grande simplicité par rapport à ces scénarios. Donc, si on part du début. Un des grands modèles que l'on va retrouver typiquement, c'est la fédération d'identité. Ça a été fait au début essentiellement pour ceci. Je souhaite permettre à une autre organisation, à des utilisateurs d'une autre organisation, d'accéder à mes ressources. Et pour vu de la ressource, vis-à-vis de l'accès qui est donné, je vais donner une capacité de déléguer finalement l'authentification à cette autre organisation au travers de protocoles de fédération. Et la personne de cette organisation qui a la capacité, le droit d'utiliser mes ressources au travers du cadre de confiance qui a été établi entre les deux organisations, d'un point de vue métier, commercial, relation d'entreprise-entreprise au départ, sans technique, mais qui est vraiment le fondement de la relation. Cette personne va s'authentifier au niveau de son organisation pour accéder ensuite à mes ressources. L'avantage, c'est que ça fonctionne. Il y a des grandes familles de protocoles. On peut faire ça en SAML2, on peut faire ça en WSFED, si on veut être un peu plus concret d'un point de vue plomberie. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que potentiellement pour mon organisation qui souhaite s'ouvrir à d'autres organisations, je vois quelque part une complexité qui croît finalement avec à chaque relation supplémentaire, parce que ça suppose que pour que ça fonctionne, on a des choix qui soient compatibles. Donc, en termes de plateforme de fédération, d'un point de vue protocolaire, j'ai évoqué deux protocoles à l'instant. Dans le cas de SAML, il y a un certain nombre de profils qui viennent s'adjoindre à tout ça. Ça suppose qu'on parle quelque part un peu le même langage d'un point de vue tuyauterie. La fédération d'identité, ça repose sur l'utilisation de certificats pour protéger, avoir des tunnels SSL-TLS, pour pouvoir signer des jetons de sécurité. Les certificats, comme tu le sais, Pascal, sont pas émis ad vitam aeternam, donc ça suppose de les renouveler dans le temps. Le certificat, en général, ça se gère. C'est pas une bonne pratique, consiste pas forcément à utiliser les certificats auto-signés pour tout. Donc ça suppose d'avoir des hiérarchies et des chaînes de certification qui vont jusqu'à une confiance, une racine de confiance. Donc ça suppose que par rapport à ce qu'on a à vérifier sur ces certificats, qu'on partage en fait ces racines de confiance. Donc ça suppose un certain nombre d'éléments de configuration, au-delà même de la capacité d'être compatible dans ces choix, qui font qu'à l'arrivée, c'est déjà beaucoup de travail pour faire en sorte qu'une relation avec un acteur fonctionne. C'est beaucoup de travail aussi pour faire en sorte que dans le temps, cette relation qui a fonctionné perdure. Donc c'est vrai que la notion de métadonnées qui peut exister avec certains protocoles facilite grandement l'échange d'un certain nombre d'informations. On ne va pas retrouver ça forcément avec tous les protocoles. Et puis encore une fois, ça suppose d'avoir des éléments, des choix compatibles. Donc qu'est-ce qui se passe quand le partenaire a une infrastructure de fédération d'identité qui n'a pas du tout les mêmes choix que les miens, qui bouge, et finalement qui est le plus demandeur de cette relation? Donc ça veut dire qu'il y a un impact et qui n'est pas forcément négligeable et qui, du coup, tu vois, peut imposer des délais non négligeables non plus pour que ça se matérialise. Et puis, généralement, dans les sociétés qui font de la collaboration, on a des partenaires de différents rangs, de différentes tailles. Donc quand on parle de fédération, ça suppose qu'on s'adresse déjà à des acteurs d'une certaine taille. Si je veux collaborer avec des tout petits, qu'est-ce qui se passe? Je leur impose de déployer une infrastructure dont ils n'ont pas les moyens de mettre en place. Comment ça se passe? Donc c'est là qu'on voit émerger à côté un deuxième modèle potentiellement, en alternative ou en complément, qui est de finalement gérer directement, non pas déléguer la capacité aux partenaires de venir s'authentifier pour accéder à mes ressources, mais directement finalement gérer dans des annuaires qui m'appartiennent les identités des partenaires.
Exactement.
Alors ça, on va essayer de façon non mêlée avec mes propres identités d'utilisateur, mais on peut voir un peu de tout dans les mises en œuvre. Et on ne va pas lister tout ce qu'il y a sur la diapo, mais il y a tout un tas de cas de figure qui sont… C'est une gestion supplémentaire, d'une façon générale, qui atteint ses limites. Et puis on peut avoir, comme je l'évoquais, un mixte des deux en fonction. Alors on peut essayer de standardiser sur la fédération et créer sa propre infrastructure de fédération qui va quelque part mimiquer celle d'un partenaire en s'appuyant sur des annuaires propres pour aller gérer les partenaires, mais tout ça pour finalement, au final, vu de l'application, se présenter comme de la fédération. On peut opter complètement de l'autre côté, on peut avoir une toutouille finalement qui fait qu'à l'arrivée, on a quelque chose de relativement compliqué. Donc notre proposition aujourd'hui, c'est de dire finalement, si on considère que beaucoup d'applications et par rapport auxquelles on a potentiellement les accès à données sont dans le cloud, mais pas uniquement, mais qu'en tout cas, par rapport à ce phénomène-là, le cloud, en matière de hub d'identité, a un rôle majeur à jouer, quelque part. Ne pourrait-on pas utiliser finalement cette puissance du cloud pour maîtriser à la fois le cloud, mais finalement quelque chose qui a une puissance importante en termes de volume, de nombre de personnes que je souhaite atteindre, de nombre de sociétés que je souhaite atteindre, quelle que soit leur taille, etc. Et ce que l'on propose au travers de B2B, de l'extension B2B, alors qui s'adresse, je ne l'ai pas évoqué, à toutes les éditions d'Azure AD classique.
D'accord.
Donc que ce soit l'édition gratuite, que ce soit tu voulais une démonstration, me semble-t-il, donc on la fera avec l'édition gratuite, que ce soit avec l'édition basique, que ce soit avec l'édition premium, en fait c'est quelque chose qui vient se rajouter très simplement dans l'interface, comme tu le verras, et qui va fonctionner avec un système d'invitation. Alors pourquoi un système d'invitation et dans quel contexte? Bien, premier constat, aujourd'hui, Azure Active Directory, c'est une plateforme qui est à la base de tous nos services en termes de matière d'identité, en termes de services en ligne. Donc Office 365 repose pour ses besoins d'identité sur Azure Active Directory, Intune fait exactement la même chose, Dynamics CRM, Azure également, le portail Azure. Aujourd'hui, quand tu veux t'authentifier, tu peux reposer complètement sur des identités Azure Active Directory, et notamment avec le nouveau modèle de gestion fondé sur les rôles que l'on vient d'annoncer en disponibilité générale, tout le contrôle d'accès est fait au travers d'Azure Active Directory.
Donc Azure Active Directory… Intune aussi, un autre.
Oui, tout à fait. Donc Azure Active Directory est le choix d'un certain nombre de nos clients. Alors quand je dis un certain nombre, on a plus de… Oui, c'est un certain nombre, puisqu'on a dans la pratique plus de 6 millions de clients, donc 6 millions de locataires. Et en termes d'utilisateurs, ça fait plus de 500 millions d'utilisateurs. Et en termes d'authentification, si on reste sur les chiffres, on est à plusieurs milliards d'authentifications réalisées depuis la disponibilité, enfin par semaine, et en termes, depuis la disponibilité d'Azure AD, on en est à des trillions d'authentifications. Donc ça fait des nombres complètement faramineux. Donc tout ça pour dire que, déjà permettre une collaboration facilitée à toutes les organisations qui sont déjà présentes dans Azure AD, simplement, ça a déjà beaucoup de valeur parce que potentiellement, ça permet déjà à 6 millions d'organisations de collaborer entre elles. Alors, ce n'est pas toutes les organisations qui vont collaborer avec toutes, mais en tout cas, ça permet de mettre en place un schéma pour faire en sorte qu'une organisation qui souhaite collaborer avec d'autres organisations dans le cloud puisse le faire très simplement. Enfin, dans le cloud, dans Azure AD.
Si je comprends bien, pour résumer, c'est profiter du fait qu'une organisation et ses partenaires, certains de ses partenaires soient tous les deux dans le cloud.
Capitaliser et dans Azure AD, capitaliser déjà sur ce modèle-là.
La fédération soit faite à l'intérieur de Azure AD, enfin de
voilà,
cloud.
Et qu'on utilise finalement la puissance du cloud et la tuyauterie et que ça soit complètement transparent. Donc ce que l'on a typiquement sur la slide, d'où on a au centre, on a l'Azure Active Directory de l'organisation qui souhaite collaborer et ouvrir ses ressources à d'autres organisations et on a tout autour des organisations avec le petit logo Office, donc qui sont des clients Office 365, ou des organisations qui, sans le logo Office, sont des clients qui ont un annuaire Azure AD, par exemple avec Intune, ou par exemple pour être utilisé avec Azure. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Puisque finalement, c'était le reproche que l'on faisait par rapport aux petits. Et on a finalement un système qui est tout aussi simple, c'est-à-dire qu'au travers de ce mécanisme d'invitation, si tu es invité avec une adresse d'une entreprise, une adresse mail, une adresse d'entreprise qui ne dispose pas d'un locataire, on va te permettre, dans l'expérience d'inscription, de très simplement de créer un locataire non géré par rapport à ça, qui fait que tu rentres finalement dans le moule. Ce sont tous ces petits annuaires avec la création.
Pour le partenaire.
Et c'est complètement gratuit pour le partenaire, bien évidemment. Donc finalement, c'est une seule et même chose. Et ça permet au partenaire, finalement, d'être aussi dans Azure AD. Et puis, il peut, si plusieurs utilisateurs de ce partenaire, finalement, se retrouvent dans un locataire non géré, l'acteur partenaire, en tant qu'organisation, peut récupérer le contrôle. Et puis, finalement, avoir, c'est un bootstrap, avoir le contrôle de son locataire Azure AD. Mais dans un premier temps, c'est complètement transparent, ce qui permet des collaborations, on va dire, de façon unitaire avec un acteur, mais qui se réduit potentiellement à un utilisateur.
Exactement.
Donc derrière, en termes de relations, finalement, ce qui est fait, c'est qu'on établit de façon complètement transparente les relations de confiance qui vont bien pour asseoir cette collaboration. Et on va permettre finalement aux utilisateurs de ce partenaire d'accéder aux ressources pour lesquelles on les aura invités.
D'accord.
Et donc ça veut dire en fait pas des doublons de compte, ça veut dire un compte. Le partenaire s'authentifie auprès de son organisation partenaire, comme il peut le faire d'ores et déjà par rapport aux annuaires Azure AD déjà existants, ou au travers finalement d'une authentification sur un Azure AD nouvellement créé pour la circonstance. Et on parlait de relations de fédération à monter. Finalement, la seule fois où il peut exister une relation de fédération pour le partenaire, c'est en fait la relation qu'il aura lui-même montée parce qu'il souhaite que ses utilisateurs dans Azure AD soient des utilisateurs fédérés et il souhaite en fait, dans ce contexte-là, réaliser lui-même l'authentification dans son infrastructure en local. Mais ça, c'est le choix du partenaire pour ses besoins propres et qu'il ne vienne absolument jamais interférer finalement avec dans le contexte de la collaboration à établir entre mon organisation qui souhaite collaborer avec un partenaire. Ça, c'est le choix du partenaire par rapport aux politiques de sécurité, par rapport au cadre de loi, par rapport aux régulations qui peuvent exister dans ce contexte où il peut être amené à vouloir, par exemple, réaliser une authentification forte à demeure pour avoir des traces qui soient à demeure, etc., etc.
Mais cette mise en place a été grandement simplifiée depuis l'apparition de AD Connect, qui fait quand même pas mal de choses pour ce cas-là.
Ah bah exactement, Pascal, puisque ça te permet, d'une part, je parlais des entités fédérées, mais si tu veux faire de la synchronisation, ça te permet déjà de gérer ta synchronisation. Alors, dans le sens montant, voire dans le sens descendant, si tu as l'édition premium, d'enregistrer des appareils dans ce contexte. Et puis, effectivement, si tu veux déployer de la fédération d'identité, ça te permet de déployer l'infrastructure ADFS et de la configurer pour la circonstance.
Ça simplifie quand même pas mal les choses.
Bah, c'est un peu le but, c'est faire en sorte que finalement, vu de l'organisation, pour faire un petit zoom mais éclore la parenthèse, bah, on puisse permettre d'avoir finalement un annuaire, et cet annuaire, bah, il en a une partie finalement dans le cloud, il en a une partie à demeure éventuellement, et tout ça, bah, c'est finalement un tout, et un tout qui est géré de façon homogène. Alors à la fois, tu évoquais Azure AD Connect, il y a deux facettes dans Azure AD Connect. Il y a le Azure AD Connect pour mettre en place la relation, la maintenir, faire en sorte de synchroniser les comptes, faire de la fédération d'identité le cas échéant, et puis pour nos clients qui ont fait le choix de l'édition premium, ils peuvent naturellement utiliser Azure AD Connect Health, qui est un service qui permet d'analyser dans le temps la santé de ce service, de donner un certain nombre de conseils et de mises à jour quant à l'évolution dans le temps de ce service. Bon, là, on s'écarte un peu du sujet, donc je ferme la parenthèse, si tu le veux bien, Pascal, mais voilà, en tout cas, pour la chose. Vu de l'organisation qui souhaite collaborer avec d'autres et finalement ouvrir ses ressources, donc là, je me mets dans la peau de l'administrateur, bah, finalement, c'est un mécanisme d'invitation simple, comme on va le voir à l'instant, au travers, finalement, bah, d'un fichier Excel dans lequel je vais renseigner un certain nombre d'éléments pour faire un chargement en une seule fois, en masse, finalement, de mes invitations. Et ensuite, le système a un workflow qui va être déclenché, on verra on va le voir en démo, qui permet d'envoyer tous les mails d'invitation. Et puis ensuite, donc, j'ai naturellement des rapports qui me permettent de suivre l'avancement de ce workflow et l'état des invitations, si elles ont été acceptées, si elles sont acceptées, etc. De l'autre côté, j'ai un deuxième workflow qui est le workflow d'acceptation en tant que tel, que l'on verra, qui permet finalement d'avoir accès à ce qu'on m'a conféré. Donc, vu de l'administrateur, c'est quelque chose qu'il peut faire au moment de l'invitation, c'est-à-dire préciser quelles sont les applications qu'il souhaite ouvrir à quelle personne. Donc, dans le fichier Excel, en fait, je vais avoir une ligne par personne invitée. Donc, je peux avoir un fichier Excel pour une organisation, à destination d'une organisation partenaire, mais je peux aussi avoir un fichier Excel qui va mêler des utilisateurs d'organisations différentes autour d'un projet. Donc après, je peux, en tant qu'administrateur, gérer ça au travers de différents fichiers Excel vis-à-vis de ce qui fait sens par rapport à la collaboration qui est à mettre en place, si c'est par rapport à des organisations ciblées ou au contraire, si c'est vis-à-vis de, par exemple, de la mise en place d'un plateau virtuel autour d'un projet, par exemple. Donc après, c'est à chaque administrateur de voir ce qui fait sens. Dans ce contexte-là, on va pouvoir inviter par rapport vis-à-vis de l'accès à une ou plusieurs applications. On va pouvoir permettre, si on le souhaite à ce stade-là, faire en sorte que les personnes qui rejoignent, et ça c'est par utilisateur, donc par ligne, rejoignent en même temps des groupes de sécurité au niveau Azure AD que j'aurai prédéfini, qui va me permettre ensuite, par exemple, d'exprimer une politique d'accès et de contrôle d'accès conditionnel.
Okay.
Donc ça, je peux le faire à ce moment-là. Et puis, je vais pouvoir derrière, d'une façon générale, comme ceci va me créer finalement une entrée de référence dans mon annuaire Azure AD, je vais pouvoir gérer derrière des attributs additionnels, donc par rapport à ceux qui sont prédéfinis, mais également bénéficier de toutes les extensions du schéma Azure AD que je peux réaliser pour, par rapport à cette relation, aller mettre des informations que je pourrai utiliser derrière dans mes applications. Et puis, bah, je vais bénéficier, comme je l'évoquais, des rapports de sécurité, des audits, de toutes les heuristiques dont on peut bénéficier aujourd'hui et qui sont fonction aussi de l'édition dont on dispose. Donc, ça n'a rien de neuf sur la planète. Donc, peut-être une démo, tu en voulais une. Ça s'impose, c'est ça, la démo s'impose. Restons dans le concret, c'est ça.
C'est bon.
Donc, on va être concret, on va rester proche de la tuyauterie, si je puis dire, mais ça ne va pas en voir grand-chose, puisque le but du jeu, c'est que le cloud fasse tout ça pour nous. Hein.
Donc, exactement.
Donc, je suis simplement parti pour les besoins. On a sur GitHub un certain nombre d'applications exemples prêtes à l'emploi, web, mobile, d'applications intégrées Azure AD, donc dans le cadre de la collaboration. Alors, j'aurais pu le faire avec des ressources, Office 365 ou autres, mais pour bien voir la tuyauterie, j'ai préféré partir finalement d'un canevas simple. Donc, j'ai pris l'application web ASP.NET classique, configurée pour faire de l'OpenID Connect.
Okay.
Donc, vu de l'application, ici, je suis simplement, donc, j'ai récupéré cette application et j'ai déjà, en fait, pré-configuré un certain nombre de choses. La pré-configuration, elle tient ici, en fait. Hein. Donc, quel est le tenant de mon application? Donc là, je suis l'organisation qui souhaite exposer cette application à des partenaires. Bah, comme dans Azure Active Directory, une application, elle va disposer d'un enregistrement d'un record d'application.
Donc
elle a un client. Donc on ira le voir tout à l'heure comment ça se situe. Ça, c'est utilisé pour l'adresse, pour la redirection lors de la connexion. Et puis là, je suis sur un environnement de test. Donc ça, c'est l'adresse de mon application en local.
D'accord.
Donc ça, c'est mon application que je souhaite mettre à disposition. Ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va
l'exécuter.
On va simuler un autre environnement de prod, comme c'est une application qui est déployée, par exemple dans un cloud ou en local, peu importe hein, l'endroit. Mais c'est une application qui tourne et qui est à disposition. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir la vue de l'administrateur pour inviter justement des utilisateurs d'une autre organisation. Donc là, je suis dans mon répertoire Azure Active Directory pour ma société Contoso 369.
Donc ça, on connaît.
Je regarde l'application et voilà mon application en fait, que je souhaite mettre à disposition. Et donc un petit logo, on le reverra peut-être tout à l'heure. Et si je regarde dans la configuration, donc je retrouve le logo et donc si, le 606, hein, si tu te souviens, c'est celui qu'on a ici. Hein. Donc c'est exactement le même, hein, Pascal. Rien.
Ça commence par 606.
Ça commence par 606. Alors, revenons ici. Donc, je disais, c'est une expérience qui passe par l'utilisation d'un fichier Excel pour inviter les gens. Donc, alors, qu'est-ce que l'on a dans ce fichier Excel ?
Fichier Excel ou...
C'est un fichier CSV, en fait.
CSV.
Hein. C'est un fichier CSV, tu fais bien. C'est un abus de langage, c'est un fichier CSV. Donc, ici, je l'utilise au travers d'Excel. Mais merci, Pascal, pour la correction et l'abus de langage. Donc, comme je le disais, c'est un fichier qui va avoir plusieurs rubriques. Alors, il y a les rubriques optionnelles, il y a les rubriques obligatoires. Tu peux te douter que l'adresse mail, le nom de l'utilisateur sont des rubriques obligatoires. Donc, ici, en fait, j'ai fait un fichier par rapport à l'invitation d'un certain nombre d'utilisateurs d'une même organisation. C'est le cas ici, ça pourrait être pas forcément le cas.
D'accord.
Alors, on peut choisir le modèle qui est le plus adapté. Donc, si je prends mes lignes, elles sont à peu près configurées de la même façon. Je souhaite inviter l'utilisateur Alex Darrow. Je souhaite l'inviter pour utiliser une application. Ben, on retrouve le 606. D'accord.
D'accord.
Donc, ça, c'est l'application. S'il accepte l'invitation, c'est l'application à laquelle il aura accès à l'issue de l'invitation. D'accord. Je peux, dans le contexte de l'invitation, faire en sorte que les mails qui sont envoyés dans le workflow soient personnalisés. Avec des logos qui, par exemple, tu vois, des logos qui permettent de voir que c'est bien l'organisation qui invite ou par rapport à une application de l'organisation. Et en l'occurrence, ici, je vais utiliser le logo de l'application. Donc c'est pour ça que je précise le 606.
D'accord.
Si je disposais d'une édition premium, je pourrais aller beaucoup plus loin parce qu'on va reprendre en fait tous les éléments de marque que l'on peut préciser dans le cadre de premium.
Effectivement, c'est une fonctionnalité.
Donc du coup, on aura un mail qui va encore un peu plus loin, alors, basique ou premium en l'occurrence, hein, mais qui reprend derrière toutes ses capacités de branding. Ensuite, il y a le contact que je souhaite donner, le point de contact. Alors, on a plusieurs options. C'est-à-dire, le point de contact, c'est finalement quelle est l'URL dans la pratique que peut utiliser la personne invitée de l'organisation partenaire pour me contacter. Alors, ça peut être directement l'application elle-même. C'est ce que l'on a ici. Ça peut être une valeur par défaut qui est Azure Microsoft .com Service Active Directory. Et si tu précises ceci, ou si tu ne le précises pas, c'est un champ optionnel, l'utilisateur va se retrouver finalement dans le panneau d'application ou le My Apps.
D'accord.
Et du coup, va avoir en fait deux champs. Va avoir si c'est déjà un utilisateur, si c'est déjà un utilisateur d'une organisation qui dispose d'un Azure Active Directory. On peut imaginer que dans ce contexte-là, il y a un certain nombre d'applications qui lui ont été configurées dans ce contexte. En fait, en haut, si tu te souviens, tu as ton nom d'utilisateur, le nom de l'organisation.
Ouais.
Et là, tu vas avoir en fait la bascule avec les deux organisations ou les N organisations avec lesquelles. Donc, tu vas avoir ton organisation plus toutes les autres. Ou tu pourrais préciser un point de contrôle, une URL, qui soit un point de contact, qui soit autre, par exemple un groupe LinkedIn ou que sais-je. Après, il n'y a pas d'obligation. Le tout, c'est qu'à l'issue du mécanisme d'invitation, l'utilisateur invité sache où il doit aller. Donc un bon moyen de lui dire où il doit aller, c'est typiquement la configuration qu'on a là. C'est si je l'invite pour une seule application, c'est par exemple de lui donner accès à l'application. Si je l'invite pour plusieurs applications, c'est par exemple lui donner accès au portail des applications. Si je voulais l'inviter pour plusieurs organisations, ici je mettrais simplement les widths des différentes applications séparées par des espaces.
D'accord.
Ici, en même temps, je souhaite qu'ils rejoignent un groupe de sécurité qui sont mes business partners. Ce n'est pas une obligation. Et il se trouve, donc si tu mémorises le 226, si je reviens au niveau du portail, dans le groupe, tu vois, j'ai ici un groupe business partners. D'accord ? Dans. Voilà le 226.
D'accord, c'est l'identifiant du groupe.
C'est l'identifiant du groupe. D'accord ? Donc, comment ça se passe ? Donc, ce fichier, il est bien, il est joli. On va le garder comme tel. Hein. Et ce que je te propose, c'est comment ça se passe quand tu as aujourd'hui, quand tu veux ajouter les utilisateurs dans ton organisation, tu vas par exemple à ce niveau-là, enfin tu peux les créer en ligne de commande hein, si tu le souhaites. Mais une des façons de faire, c'est par exemple de le faire ici, d'appuyer, d'aller dans la rubrique utilisateur de ton répertoire, d'appuyer sur le bouton ajouter un utilisateur. Et ici, tu vas préciser la nature de l'utilisateur. Et tu t'aperçois qu'il y a une nouvelle rubrique qui sont les utilisateurs dans des organisations partenaires. Et quand je clique sur cette rubrique, on me demande de charger, guess what, un fichier CSV.
Un fichier CSV.
Donc là, je vais faire open. On lance le workflow Navitation. Si je regarde ce qui se passe, on va peut-être rafraîchir.
C'est déjà traité par le portail, en tout
bah,
cas.
C'est en cours de création. Donc, on a initié un workflow bon, qui a derrière une certaine organisation en termes d'infrastructure pour le traiter et escaler, parce que dans le fichier Excel, on peut avoir des milliers d'enregistrements. Hein. Mmh. Donc, dans la version préliminaire, on est limité à 2000, mais c'est déjà pas mal. Et tu vois que on a nos utilisateurs qui arrivent. On n'a pas encore le Alex, mais ça devrait être au fur et à mesure du traitement. Et tu vois qu'on retrouve finalement les adresses que l'on avait, sans le arrobas, mais un underscore, l'organisation partenaire, c'est un dièse, ex-dièse, et ensuite mon organisation. Je te fais remarquer ceci, parce qu'on ira voir ensuite comment ça se passe une fois que l'invitation aura été acceptée, ce qui permettra d'ailleurs de différencier l'état. On va simplement vérifier que Alex arrive. Voilà, on a notre utilisateur Alex, donc on va pouvoir passer, changer de casquette et passer
donc
en
il a
Alex.
Son adresse en tant que ext.
Pour le moment, il a son adresse en tant que ext. Hein. Voilà. Donc ce que je te propose, c'est qu'on n'ait pas d'incidence. Donc on va utiliser un autre navigateur. On va même faire ceinture et bretelle pour la session. Donc là, j'utilise. Donc il n'y a pas d'obligation d'utiliser Office 305, mais c'est un code d'usage qui est quand même pas mal répandu aujourd'hui. C'est un euphémisme de le dire. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille voir. Du côté d'Alex, qu'on aille voir sa boîte aux lettres. Bah oui, c'était
exactement.
Quand même ce qu'on a dit. Hein. Donc,
ça comprend.
Bah, j'espère bien. Bon, j'essaye de sortir les moufles, pas enfin, non les envers en l'occurrence. Donc là, si j'avais une adresse fédérée, hein, c'est la fédération tout à l'heure, je suis redirigé dans mon organisation, hein, mais là, ce n'est pas le cas.
Donc là, il est dans son annuaire, son mail de l'organisation partenaire.
Exactement, je me connecte. On va aller voir les mails. Hein. Ah hey, hey.
C'est quand même bien fait.
Bah, on espère. Hein, c'est... Donc, je suis invité. Je suis invité pour l'application. Donc, on clique. Donc, ça, cette URL, tu vois, on est sur un redeem.b2b.azure.net. Donc, c'est vraiment le moteur de workflow.
Hein,
c'est hébergé dans Azure. Cette adresse, elle est propre à chaque invité. Donc,
j'ai vu que c'était du HTTPS, donc déjà.
Et voilà, et là, tu vois, je retrouve mon application, le logo, est-ce que c'est bien moi, est-ce que je l'accepte. Alors, j'ai le droit de ne pas le faire maintenant, mais bah, tu seras frustré si on ne le faisait pas. Hein. Donc, on va le faire. J'accepte. Donc c'est là que typiquement, si je suis premium, on a le branding, on a tout ça. Hein. Et voilà, je suis en train d'accepter l'invitation. L'autorisation, le jeton d'accès. Alors là, on a un petit, on est en version préliminaire. C'est un bug qui est connu, Pascal. Qui devrait corriger bientôt, mais ce que je te propose, c'est qu'on aille directement peut-être sur l'application elle-même. C'est 320, me semble-t-il. Voilà.
D'accord. On est logué avec le compte partenaire.
on est logué avec le compte partenaire. Donc après, voilà, si on voulait
on a bien accès à l'application.
On a bien accès avec l'application.
Et donc, la dernière chose qu'on voulait voir, c'était dans l'annuaire du point de vue de l'administrateur.
Voilà. Alors, vu de l'administrateur, si maintenant je fais S5, si je fais S5.
Comment va-t-on voir que Alex a accepté l'invitation ?
Tadam ! Les jeux sont faits. Et voilà. Et maintenant, Alex, il apparaît en tant que ce qu'il est.
Donc jusqu'à maintenant, il avait un
shadow. Les lignes du dessous. Et là, tu vois, maintenant, il est bien en tant que lui-même. On peut préciser, comme je l'évoquais, rajouter, maintenant c'est un compte, c'est maintenant une référence, on peut gérer un certain nombre de choses par rapport à lui. Mais en fait, celui qui gère, l'entité qui gère Alex, c'est l'organisation Litware 369, c'est pas Contoso. Hein.
Exactement.
Et d'un point de vue groupe de sécurité, si je prends mes business partners, regarde, tu vois, on avait demandé que tout ce petit monde rejoigne, c'est fait.
C'est fait.
Donc maintenant, je peux utiliser tout ceci. Et puis maintenant, je suis dans mon environnement Azure AD classique.
Et donc, octroyer des droits.
Utiliser tout ce que je sais faire. Alors, ce qu'on n'a pas vu, de ce que je ne t'ai pas montré, c'est que dans... Voilà, j'ai par exemple ici un rapport. Je pense que c'est on est le 10, 23, c'est ça. Donc voilà, les autres, tu vois, on est invitation acceptée, c'est Alex, les autres, le mail a été délivré. Donc ça suppose que les utilisateurs aillent dans leur boîte aux lettres. Alors comme tu le sais, on peut exporter ces rapports, on peut accéder à ces rapports au travers de Graph API, donc on peut aussi avoir une gestion fine de tout ce processus. Donc finalement, si tu te souviens, dans notre cahier des charges initial, donc pour l'utilisateur, c'est simple, si on reprend les trois colonnes, pour vu de l'utilisateur, qui a collaboré. Donc mon Alex qui doit accéder à mes aux ressources de Contoso, finalement c'est simple, il a reçu un mail, il a cliqué sur le mail et il a accès à l'application. Ou au panneau applicatif, moyennant éventuellement aujourd'hui un refresh par rapport au workflow, mais qui est quelque chose qui est identifié par nos équipes et qui sera résolu dans les meilleurs délais. Après si j'avais mis une autre URL comme LinkedIn Load, j'aurais pas eu le problème, si tu veux, mais bon c'est plutôt cette expérience-là qui, me semble-t-il, est à favoriser dans le B2B. Vu de l'organisation partenaire, elle n'a rien fait.
Elle n'a absolument rien fait,
Elle n'a absolument rien fait, donc il n'y a rien de particulier. Et puis, vu de l'admin de mon organisation, il continue à utiliser ce qu'il sait utiliser. Donc, il n'y a rien de plus. Point que je n'ai pas mentionné, c'est un service qui est gratuit. Donc, j'avais dit que c'était disponible dans toutes les éditions, c'est un service qui est gratuit. Donc, ce serait dommage de s'en priver.
D'accord, qui complémente simplement votre annuaire actuel, quoi.
Exactement. Alors aujourd'hui, c'est une version qui est faite au travers d'un fichier CSV. Ce que l'on devrait bientôt apporter, c'est en l'occurrence la capacité de le faire au travers d'API.
Ok.
Donc pouvoir le faire de façon programmatique sans passer par le portail. Donc je te propose peut-être que l'on conclue.
Que l'on revienne sur les slides
exactement,
de tout ça.
Exactement, donc je pense qu'en termes de synthèse, on va retrouver finalement, on a un modèle simple, une invitation, qui aujourd'hui passe par le portail avec un fichier CSV, qui demain pourra être, demain étant très proche, complètement programmatique. Donc avec tout ce que ça peut permettre en termes d'interfaçage avec des systèmes existants. Donc une mécanique encore beaucoup plus automatisée que quelque chose qui pourrait passer par une extraction d'un système pour constituer le dit fichier Excel. Vu du partenaire, finalement on a une expérience de SSO, parce que tu vois, une fois que je suis rentré, par rapport à toutes les ressources de mon organisation pour lesquelles j'ai donné un accès, conféré un accès à un utilisateur externe, cet utilisateur externe bénéficie d'une vraie expérience d'authentification unique, à la fois par rapport à toutes les ressources de son organisation, mais également, de façon transparente, par rapport à toutes les ressources de l'organisation, de mon organisation auxquelles je vais donner accès. Donc, toi, par rapport à notre cahier des charges initiales de l'utilisateur, pour lui, c'est quelque part un vrai bonheur.
Tout à fait.
Et puis, en termes de sécurité, je peux contrôler complètement tout. Un point que je n'avais pas mentionné dans notre petit tableau, si au départ, par rapport, si tu te souviens, par rapport à la création d'annuaires en interne pour gérer ce genre de choses, c'est que je ne sais pas forcément quand l'utilisateur a quitté l'organisation partenaire. Donc, si je vais utiliser un annuaire interne, ça suppose que j'ai mis en place un certain process, que ce process dans les faits fonctionne, pour être averti que l'utilisateur Intel chez le partenaire X vient de quitter le partenaire X de manière à ce que je lui enlève l'accès.
Et dans la pratique comme,
bah, dans la pratique, ça ne se fait pas.
Ça se fait pas.
Donc en plus, imagine un départ dans des conditions qui ne soient pas des plus satisfaisantes pour l'utilisateur Intel, imagine les conséquences et finalement l'impact sur cette relation entre les deux organisations. Alors que là, ben, si le partenaire fait le travail, la personne n'a plus capacité de s'authentifier chez lui, donc plus d'accès chez moi.
Voilà, c'est le propre de la fédération en quelque sorte.
Et du coup, on retrouve le propre. Donc finalement, on est dans le point de départ qui était quand même le scénario naturel, mais qui a plein de complexités quand on veut le mettre en place par soi-même depuis son environnement en local. Et puis finalement, on retrouve finalement ce cadre-là avec toute la simplicité quand le cloud vient apporter sa puissance.
Exactement. Pour aller plus loin.
Et voilà,
avec tes collègues, tu produis des white papers, des livres blancs qu'on peut trouver dans un Sway que tu as publié récemment, donc aka.ms/aadpapers, tout sur Azure Active Directory, en gros.
Voilà, alors sur Azure Active Directory, alors il y a le même, peut-être en profiter pour le mentionner sur la partie RMS, donc il suffit d'enlever AAD et mettre RMS à la place pour Azure RMS. Hein.
Exactement.
Mais en l'occurrence, on va retrouver en particulier ce papier, Introduce Azure Active Directory B2B, qui va reprendre beaucoup plus en détail, comme tu peux l'imaginer, Pascal, tout ce que l'on vient de dérouler très rapidement ensemble. Enfin, en tout cas, merci de m'avoir donné l'occasion de le faire.
Exactement. Et puis, merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Et puis, tu as quelques petits pointeurs supplémentaires pour la documentation de Azure AD B2B. Et puis, donc, merci Philippe.
Merci Pascal.
À une prochaine fois, j'espère.
Eh bien, volontiers, écoute.
Et aux auditeurs, merci et de votre fidélité. Et à très bientôt, et notamment à la semaine prochaine, d'ailleurs. Voilà, à la semaine prochaine.
Donc, rendez-vous est pris.
Rendez-vous est pris. Merci.